poussière d'étoile.
Jeunesse, si tu savais, voici l'histoire d'un grand témoin du XXe siècle, la mère des pauvres de Calcutta, Mère Teresa. Dans le train bondé et cahotant qui relie Calcutta à Darjeeling, le voile blanc d'une petite religieuse de Notre-Dame de Lorette tranche avec les saris colorés. En ce jour étouffant de 1946, on dirait que toute l'Inde se bouscule dans les compartiments surchauffés, séparés en ces milliers de castes, de Kshatriyas, des Vaisyas, des Sudras et tous les Parias, exclus de partout et même des temples. Elle les aime tous, la petite sœur de Lorette, avec une préférence toute spéciale pour les pauvres. Toute jeune déjà, sœur Teresa a eu le désir de servir les plus démunis. Dans sa paroisse de Skopje, petite ville de Macédoine où elle est née en 1910, Gangse Bojaksu, le nom qu'elle portait avant d'entrer en religion, voyait souvent passer des prêtres missionnaires en provenance d'Afrique ou d'Inde. Ils expliquaient en chair combien le monde avait besoin de l'amour du Christ. Cela faisait longtemps qu'elle songeait à se consacrer à Dieu. Régulièrement, elle allait confier ce désir à la Vierge de Lenitsa, un sanctuaire non loin de Skopje. C'est là, en août 1928, que Gangse a décidé d'être elle aussi missionnaire, après 6 ans d'hésitation et malgré sa santé fragile. Son directeur de conscience d'alors, le père Jean Brekovic, l'a rassuré. « Si tu es heureuse en pensant que Dieu t'appelle pour le servir et servir ton prochain, c'est la preuve que ta vocation est réelle. » Alors un jour de septembre 1928, Gangse a pris le chemin de la gare de Skopje. Sur le quai, une centaine de personnes l'attendent, des amis de la paroisse, du quartier, plein de reconnaissance pour son rayonnement, son sourire et sa bonté. Ils sont venus dire adieu à la petite Gangse. La voilà en route pour le noviciat des sœurs de Notre-Dame de Lorette à Dublin. Dans le beau couvent de Rathfarnham, elle est devenue Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus, en référence à Sainte Thérèse, la petite carmélite de Lisieux, canonisée 3 ans plus tôt et nommée protectrice des missions. 2 mois plus tard, sœur Teresa débarque en Inde. Un prêtre l'a averti des difficultés qu'elle devra affronter. Ici, le missionnaire a 3 ennemis. Le diable, le soleil et les castes. Pour le diable, on a l'aide de Dieu. Pour le soleil, on achète un chapeau. Mais pour les castes, pas étonnant donc que dès son arrivée, en décembre 1928, elle est maintes fois choquée en nettoyant elle-même le sol de l'école où elle enseigne à des jeunes filles aisées, tâche réservée aux esclaves, ou en visitant, elle, une européenne, les familles les plus pauvres, dans les paris, les immeubles insalubres de Calcutta. Mais sœur Teresa ne peut se résoudre à croiser, sans rien faire, tous ces regards désespérés, tous ces corps délabrés qui la bouleversent. Bien sûr qu'elle aimerait les accueillir tous, la femme battue et l'homme poignardé, le bébé mourant, la fillette affamée, tous pour les remettre à son Seigneur. Pour l'amour de Dieu, elle ferait tout, même l'impossible, ainsi qu'elle l'a promis. Le fait-elle ? Sœur Teresa n'est pas satisfaite de son apostolat. Confusément, elle sent que Dieu l'appelle à partager plus étroitement encore la vie des pauvres. Mais comment concilier cet engagement radical avec la règle de Lorette ? Comment s'engager plus en avant au service des pauvres ? C'est la question que se pose en 1946 sœur Teresa. Pour répondre à cette question, sœur Teresa a demandé à quitter Calcutta pour rejoindre Darjeeling, où elle fera sa retraite annuelle. C'est pour discerner sa vocation qu'elle a pris ce train. Et là, dans les chaos du convoi, au milieu du bruit, des cris des passagers, elle entend distinctement une voix, la même voix qu'il a appelée 20 ans plus tôt, et qu'il appelle pour la seconde fois. Alors sœur Teresa entend cette phrase qu'elle pourra répéter au mot près jusqu'à la fin de sa vie. « Sors du couvent de Lorette pour pouvoir servir librement les pauvres. Un appel dans l'appel. » Immédiatement, lui vient à l'esprit une parole de la Bible, celle de la Vierge à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il ? Il y aura sa supérieure à convaincre et l'archevêque, si inquiet de l'évolution incertaine de l'Inde vers son indépendance. Et puis, il existe déjà une administration qui, en théorie, s'occupe des pauvres. Sans parler des sœurs de Sainte-Anne, dont le ministère correspond à peu près à ce que Dieu demande à Teresa. Comment cela se fera-t-il ? Pour seule réponse, Teresa répète dans son cœur « Je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne selon sa parole ». Bientôt, le père Van Exem, un jésuite qui assure sa direction spirituelle, transmet à Rome sa demande de quitter l'ordre des sœurs de Lorette pour vivre parmi les pauvres. « Il n'y a plus qu'une chose à faire, lui dit-il, prier et attendre. » Elle attend et prie durant toute l'année 1947, retirée à Ansasol, dans l'état du Bihar, pour soigner une maladie qui l'a beaucoup affaiblie. Quand arrive enfin l'autorisation de quitter le couvent des sœurs de Lorette, sœur Teresa doit encore passer quelque temps à Patna, chez des sœurs américaines où elle suit une solide formation d'infirmière. En 1948, sœur Teresa retrouve Calcutta. Rien n'a changé, hormis un détail. La petite religieuse a revêtu en guise d'habit un simple sari blanc et bleu
avec une petite croix sur l'épaule, signe visible de l'amour du Christ. Par où commencer ? Une visite, un sourire, une poignée de main, parfois un médicament à donner. Le soir, quand elle se retrouve au milieu de cette foule, qui s'apprête à dormir à même la rue, Teresa, fatiguée d'avoir marché et œuvré toute la journée, pense que sa faiblesse n'est rien à côté de celle des exclus qu'elle soigne. Pourtant, dans la petite chambre qu'elle occupe chez des amis indiens, surgit parfois dans son esprit l'image du confortable couvent de Lorette, le réconfort des sœurs et la tentation de renoncer à cette folie pour retourner au bercail. Une seule solution, prier encore. Fais que je cherche à consoler plutôt qu'être consolé. Son lieu de travail favori est le réservoir d'eau de Calcutta. Elle y recueille les enfants, les lave, les soigne, éduque leur mère. Teresa s'épuise à ses travaux, sans cesse recommencer, sans résultat apparent. Jusqu'à ce jour de mars 1949, où vient à elle une jeune fille qui lui propose ses services. Elle regarde sa bachini d'ache, sa belle robe et ses anneaux aux oreilles, pense peut-être à celle qu'elle-même a été jadis et lui dit « On ne peut pas servir quand on est habillé comme tu es ». Sa bachini revient un peu plus tard, le jour de la Saint-Joseph, vêtue d'un sari blanc et bleu. Elle sera bientôt rejointe par trois jeunes filles, des anciennes élèves de sœur Teresa, puis par cinq autres. Sœur Teresa songe alors à fonder un ordre, celui des missionnaires de la charité, est officiellement créé le 7 octobre 1950. La règle tient en quelques phrases. La missionnaire de la charité doit être imprégnée de l'amour, témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes, chrétiens et non-chrétiens, croyants et non-croyants, en particulier pour les pauvres, parmi les pauvres. Les plus pauvres, c'est cet homme que les sœurs ont retrouvé, mangé par les rats à la porte de l'hôpital Campbell, dans l'indifférence générale. C'est cet enfant mourant dans les poubelles et dont mère Teresa dit « Dans cet enfant, il y a encore un souffle de vie. Personne au monde n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit parce qu'elle est un don de Dieu. C'est encore cette femme qu'elle recueille, lave, soigne et qui lui demande « Pourquoi fais-tu cela ? Parce que je t'aime et parce que Dieu t'aime. » La femme murmure dans un souffle « Dis-le-moi encore, car c'est la première fois de ma vie que j'entends ces mots. » Dans la bouche de chacun de ceux qu'elle soigne, mère Teresa entend la parole du Christ sur la croix « J'ai soif !» Une urgence qui ne souffre aucun délai, aucune prudence. Lorsqu'elle s'installe en 1952 dans le quartier de Kalighat, avec l'autorisation de l'administration, elle sait bien qu'elle investit le cœur d'un centre religieux hindou, à quelques pas du temple de la déesse Kali. Mais qu'importe, Teresa est là pour accueillir les mourants de toutes origines, au grand scandale des fidèles et de certains dignitaires. Un jour, ils envoient un fonctionnaire d'État pour que cesse ce blasphème. L'homme entre dans le bâtiment, pénétré de son titre et de son pouvoir. Il voit les centaines de mourants allongés par terre, les sœurs qui les soignent, mère Teresa en tête, agenouillée à leur chevet. Ému, l'homme de loi ressort en disant aux prêtres qui l'attendent à l'extérieur « Dans le temple de Kali, vous adorez une déesse en pierre noire, tandis que dans cette salle, vous avez une déesse vivante. » Plus jamais l'État indien et les prêtres de Kali ne s'en prendront aux missionnaires de la mission de Nirmal Idrey, la maison du cœur pur dédiée à la Vierge Marie. Son action est désormais admise, respectée, admirée. Le pape Jean-Paul II, qui visita ces maisons en Inde en 1986, lui confia à la maison d'accueil du Vatican le don de Marie, ouverte aux sans-abri. Ne résisterons pas non plus à l'exceptionnel charisme de mère Teresa, le président du comité soviétique pour la paix à Moscou, où elle installera deux maisons, ni les jurés du prix Nobel de la paix, qui lui décerneront le prix en 1979, ni les dirigeants du monde entier, à qui elle ne cessera de rappeler les exigences du respect de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Mère Teresa est morte d'épuisement le 6 septembre 1997. Ses obsèques ont été suivies en Inde par des millions de personnes de toutes castes. Événement sans précédent, son procès en béatification a été ouvert moins de 18 mois après sa mort et elle aura été béatifiée en octobre 2003, 6 ans après sa mort, par le pape Jean-Paul II lui-même qui l'avait rencontré à Calcutta et en présence de plusieurs centaines de milliers de fidèles.